Soyons les Atamans, dans leur campagneuse éthique, qui traquait aussi
Eh bien, bonjour, chers amis, ou bonsoir plutôt, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, et bienvenue dans ce libre journal de la Résistance française en direct. Je remercie tout de suite, avant d'oublier, mais je ne risque pas d'oublier, eh bien, à la technique, c'est Virginie. Bonjour, ma chère Virginie. Eh bien, Virginie est fidèle au poste. Alors, il n'y a personne, m'a-t-on dit, à la technique. Ce qui veut dire que...
Au standard.
Non, pas... Oh, qu'est-ce que je raconte? Au standard, excusez-moi. Donc, puisqu'il n'y a personne au standard, ben, vous voudrez bien ne passer que par courriel électronique. N'essayez pas d'appeler, ne vous acharnez pas sur ce pauvre standard qui ne vous a rien fait, puisque de toute façon, ben, il n'y aura personne pour vous répondre. C'est comme ça, voilà. Eh bien, oui, on est moins gâté le mercredi soir que le samedi. Mais ça ne veut pas dire que l'on ne veut pas échanger avec vous. Bien au contraire, j'espère même que nous aurons notre quatrain de Michel Dumas, s'il nous entend, car je l'ai attendu samedi et il n'est pas arrivé. Il devait, évidemment, c'était un 1er mai. Ah non, c'était le 2... non, oui, c'était un 1er mai, donc Michel Dumas faisait relâche. 1er mai. Non ?
Non, c'était
non, 2
le
mai. 2 mai. Bon, il devait faire le pont. Voilà, il devait faire le pont, Michel Dumas. Chers auditeurs, on est très contents de vous avoir. Et alors, vous avez la chance, puisque vous ne l'avez plus le samedi, puisqu'elle fait des matinales de géopolitique profonde, eh bien, elle est venue spécialement, et elle viendra souvent, je le souhaite en tous les cas, pour ses émissions, une semaine sur deux, de Livre Journal de la Résistance française. Je veux parler, bien sûr, de Lara Stam. Bonjour, ma chère Lara.
Bonsoir, Nicolas. Oui. Bonsoir, chers auditeurs. Ravie de vous retrouver. J'espère vraiment que vos réactions vont être nombreuses par courriel électronique que Virginie nous transmettra. Donc, on va travailler en petit comité pour vous répondre à vos questions, commenter vos réactions. Donc, n'hésitez pas, soyez nombreux à nous contacter.
Eh ben voilà, d'ailleurs, bah écoutez, on va faire en fait cette émission, c'est très simple, le programme ça va être une revue de presse, vous l'appréciez, revue de presse avec échange avec les auditeurs, donc vous n'hésitez pas, vous pouvez lancer dès à présent les premières questions, les premières remarques, les premières observations, je vais regarder ça attentivement, hein. Nous sommes dans le studio de Radio Courtoisie, on a absolument tous les moyens pour avoir les messages, pouvoir vous répondre, donc surtout, vous n'hésitez pas, vous envoyez vos messages et quand on aura commencé la revue de presse, eh bien, s'il y a des thèmes qui seront suffisamment polémiques, des thèmes que vous appréciez, chers auditeurs, je le sais, et qui vous feront probablement réagir, hein, il ne s'agira pas d'un cours magistral ou studieux, vous contenterez d'écouter, j'aimerais bien que cette émission, ce serait sympathique, c'est un petit peu ça aussi l'esprit de Radio Courtoisie, eh bien soit un peu interactive, que nous puissions échanger, donc nous allons eh bien traiter de sujets un peu provocateurs, j'hésiterai pas même à provoquer certains auditeurs, qu'ils soient enchantés d'entendre ce qu'ils vont entendre, ou au contraire furibards disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? De toute façon, Lara Stam n'est pas tous les samedis avec vous. La preuve, elle n'est plus là du tout. Remarque que je prends parfois. Eh ben non, mais elle sera là mercredi. Donc, on va pouvoir faire une belle petite revue de presse. Peut-être auparavant, je vous laisse la parole, Lara, nous parler, je crois, de Nini Vlam et d'une musique dont vous allez nous dire peut-être quelques mots. Nini Vlam, je crois que c'est le nom de scène de Virginie.
Oui, Nicolas, j'aimerais que Nini Vlam contribue à cette émission avec une composition musicale. Mais avant, j'aimerais faire aussi une annonce, un appel aux auditeurs pour l'adoption d'un chaton, d'un jeune chat, Gaspard, qui n'a plus de famille, qui est un chat câlin, noir et blanc, il n'a pas un an. Extrêmement affectueux et voilà, j'aimerais que
chat d'intérieur c'est
chat d'intérieur pas vacciné
sortir,
surtout pucé et stérilisé. Donc si vous avez au sein de vos familles, dans votre entourage,
si
une belle âme qui accepterait d'adopter ce chat qui a connu une autre famille mais qui par des circonstances assez, assez complexes, se retrouve aujourd'hui menacée de refuge. Donc voilà, si vous pouvez appeler, vous pouvez m'appeler personnellement à ce sujet. D'ailleurs, je laisse mon numéro de téléphone 06 26 45 08 67 ou alors envoyer un courriel sur la radio pendant l'émission. On aimerait tant qu'il y ait un retour à ce sujet. Voilà, il s'appelle Gaspard et c'est un très beau chat, vraiment. Donc voilà.
Donc sinon, je pense que le plus simple, c'est de communiquer par le secrétariat de Radio Courtoisie, tout simplement, par courriel, évidemment, secrétariat standard, si vous appelez à un autre moment que maintenant, ou par courriel électronique, c'est le plus simple. En effet, un chat qui est à adopter, qui attend éventuellement une adoption de votre part.
Voilà. Et c'est très urgent. Sinon, la musique, cher Nini Vlam, peux-tu nous faire passer une composition qui fera découvrir à nos auditeurs tes compositions ?
Thank you.
Eh bien, c'est un début de symphonie, chers auditeurs, que l'on doit donc à Virginie Nini Vlam sur YouTube, son nom d'artiste. Qu'est-ce que vous me disiez en l'écoutant, Lara ?
Ah, je disais, il y a du Wagner, il y a du Khatchatourian, il y a du Tchaïkovski dedans.
En tout cas, c'est fameux, oui. Moi, c'est vraiment fameux. J'ai trouvé ça excellent. On rappelle quand même que Virginie, c'est elle qui nous a fait, durant tant d'émissions, des bruitages, des musiques aussi de coupures, hein, et durant les revues de presse. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était intéressant de suivre l'évolution, finalement, de Virginie, alias Nini Vlam, qui, quand on avait ces émissions sur la gastronomie, nous avions les auditeurs. Alors, les gens vont dire, ils se répètent, Stocker, ils radotent déjà à son âge, c'est ennuyeux. Parce que je l'ai dit la dernière fois en disant que voilà, les auditeurs pensaient qu'on faisait la cuisine dans le studio. Que diantre gars, oui. Que non, oh, que
Virginie était au fourneau.
Voilà, elle était au fourneau, était un petit peu partout, en chef d'orchestre, du bruitage, des musiques de cuisine.
Voilà, les pommes de terre coupées, les rissoles, les mixeurs, etc. Donc,
j'observais ça attentivement. J'étais pas le meilleur.
Parfois, il y avait du bruitage vrai, c'est-à-dire c'était des coupes directement en studio.
C'est ça. Et donc, c'était Nini Vlam, enfin, c'était Virginie, et de même, les toutes courtes pauses, courtes.
Des compositions pour.
Musicales. Jingle, pardon, merci. Aïe, 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 jingle.
Aïe, aïe, aïe.
Oh, le cochonnet. Allez, eh oui, Virginie, tu vas y avoir droit au cochonnet. Donc voilà, donc ces petites. Courte pause musicale entre deux thèmes de revue de presse. Alors, on ne va pas rééditer ce soir, mais en tout cas, voilà, on est content d'avoir eu cette musique. Alors, d'ailleurs, Virginie, est-ce que vous voulez en dire deux mots de cette composition, peut-être ?
Bien, je ne sais pas, qu'est-ce que vous souhaitez savoir ?
Eh ben, vous l'avez, donc c'est une composition complètement originale, on est bien d'accord ?
Oui, complètement originale, que j'avais dans ma tête et que j'ai retranscrit sur mon ordinateur parce que je travaille sur MAO, donc musique assistée par ordinateur.
D'accord. Ouais. Donc en fait, vous avez... Comment ça se passe ? Parce que moi, ça ne m'est jamais arrivé de ma vie, sauf dans des rêves où je peux avoir des musiques extraordinaires, mais que je serais incapable de recomposer par la suite. Mais vous faites partie de ces personnes qui ont de la musique dans la tête un peu tout le temps, c'est ça ?
Exactement. Ouais, ouais. D'accord. Et là, pour cette musique-là, effectivement, j'avais vraiment toute l'orchestration, toute la musique dans la tête.
C'est
et
incroyable.
J'ai tout retranscrit, instrument par instrument.
Moi, ça me fascine, ça me passionne, les personnes qui ont ce don particulier. Faites-en bon usage de ce don.
C'était le cas de Tchaïkovski. Quand il était enfant, il avait sans arrêt de la musique dans la tête, tellement il en était gêné. Donc, les parents ont pensé qu'il était malade. Enfin, revenons maintenant à notre revue de presse.
Si vous voulez.
Oui.
Eh ben oui, on a des vedettes, hein, nous aussi, dans les revues de presse. Tiens, Brigitte.
Avant Brigitte, Nicolas.
Ah non, on commence par Brigitte.
Oh.
Oh, les auditeurs attendent Brigitte. J'en ai même un qui disait vous m'agacez profondément, sauf quand vous parlez de Brigitte, où là, vous me faites beaucoup rire. Bon, alors, cet auditeur que j'agace quand je parle de géopolitique, en particulier du projet du Moyen-Orient, eh bien, il est content, ça le fait rire quand je parle de Brigitte. Et là, je parlerai cette fois-ci de Jean-Alexandre. Ne tremblez pas, maître ami censeur, je ne parle point de Jean-Brigitte, je parle de Jean-Alexandre, c'est le neveu Jean-Alexandre.
Trognieux.
C'est le, trognieux. C'est un trognon, un trognieux. Et oui, Jean-Alexandre Trogneux, qui fut le patron de la chocolaterie d'Amiens et qui, eh bien, dans un podcast, je suis désolé d'appeler ça un podcast, mais c'est comme ça qu'on appelle, sur Internet, eh bien, qui, à contre-jour, eh bien, a été interviewé par l'épouse du frère Bertrand.
Journaliste de renom.
Oui, épouse du frère Bertrand, oui. Xavier Bertrand, le frangin, le trois points. Et c'est elle, donc une interview des plus convenues, un entretien des plus convenus avec Jean-Alexandre qui se plaignait de, finalement, la notoriété des Macron. Alors, on n'a pas trop compris parce que Je sais pas, moi, je n'ai pas souvenir que Chaudron de Courcelles pour Chirac, que ce soit les noms des différentes épouses de présidents. J'appelle épouse, hein, moi, j'appelle pas ça première dame. Il y a aucun titre à cela. On peut parler pour Brigitte Macron éventuellement de premier dame de France, mais pas de première dame de France. Ça te tient pas, c'est pas un statut constitutionnel. N'en déplaise à nos médias larbins, obséquieux et larbins. Les porte-coton.
Attention, ça peut arriver, hein, vu la composition politique et la présidence du Conseil constitutionnel, ça peut changer.
Le statut de, oui. de premier drame de France.
Oui, oui, oui. Peut-être. Faites attention.
On a déjà notre drame de Paris, mais elle nous a quittés.
Oui.
C'était Anne Hidalgo. Et puis maintenant, on a encore pour un an Brigitte Macron. Donc, il se plaint, ce malheureux Jean-Alexandre, de vivre un enfer et que les trogneux, alors on se demande pourquoi, puisque c'est le nom vraiment de la belle famille, normalement c'est pas le cas, vit un enfer dû depuis l'accession d'un certain tonton. Alors attention, c'est pas tonton tata. Ah, tata tata. Si je commence à dire tonton pour Brigitte, là ça va pas le faire. Non, tonton Manu. Voilà, le tonton, un certain tonton. Il appelle tonton d'ailleurs, c'est
bizarre.
Amusant. Oui, pour un petit jeune tonton, puis beaucoup plus jeune
il est
que
plus
lui.
Âge.
Hein. Ah bah, il est largement. Macron, il est 77, je crois que notre Jean-Alexandre est des années 50.
61. 61.
Oui. Ouais, donc il y a 16 ans d'écart, mais voilà. Donc il a un tonton qui est beaucoup plus jeune que lui. Et
c'est
donc,
peut-être par humour qu'il appelle comme ça.
Oui, probablement par humour. Mais ce qui est étonnant, c'est que voilà, il considère que les trogneux sont impactés par le nom de Macron. Bon, moi, ce que je veux bien. Moi, je m'étais dit, c'est peut-être la polémique sur le genre de Brigitte.
C'était en tout cas, ça. Il s'en mêle les pinceaux.
Il s'en mêle les pinceaux. Il y en a un qui s'en mêle les pinceaux aussi, parce qu'il y a eu un seul homme politique qui a réagi. Pourtant, ce qui est une campagne de presse où on voit que les Macron vraiment se victimisent à tout craint, explique combien ils souffrent, combien la vie est dure et difficile pour Brigitte et Emmanuel. Et donc, il y en a un qui a peut-être justement, c'est un petit peu embrêlé les pinceaux parce qu'il a réagi, il a voulu réagir. C'est l'amoureux transi Jordan. C'est Jordan Bardella. Il a dit, il faut laisser tranquille Brigitte. Mais quand est-ce que vous allez enfin la laisser tranquille, cette Brigitte? Non mais réellement, il dit, réellement, c'est Bardella le seul. C'est dire, hein, Bardella, franchement.
Oui, peut-être, il est fâché parce qu'un peu d'attention à la vie privée de quelqu'un d'autre a été attirée.
Oui, lui-même, avec Marie-Caroline
oui, non, mais lui,
de Bourbon
il la met
de
en avant, donc il aimerait bien qu'on s'en empare du sujet, à mon avis.
Oui. C'est... Arrêtez de parler, Brigitte.
Voilà,
parlez de Marie-Caroline. Ah bon, c'est la même chose que Brigitte? Non, non, c'est pas vrai. Mais non, mais non, mais non. Donc voilà, c'est la dernière en date, c'est-à-dire un couple qui se victimise en permanence, qui explique que les gens sont vraiment très méchants avec eux et que finalement, on ne mérite pas, comme le dit Brigitte, on ne mérite pas son mari. Bon. Voilà, donc ça c'était le petit épisode, puisqu'il y en a toujours avec le couple Macron. Donc on n'en dira pas plus sur ce sujet. Un autre sujet qui est finalement quelque peu adjacent que je vais vous livrer et sur lequel j'aimerais bien, Lara, que vous me fassiez des commentaires. Parce que ça, pour le coup, ça m'inquiète énormément. Ça pourrait viser beaucoup d'entre nous. C'est ce que l'on appelle le gel des comptes pour haine ou idées dangereuses. C'est officiel. Et c'est dans le titre 2 de la proposition de loi « Assécher le financement des groupes séparatistes », article 6 du Code monétaire et financier. Eh bien, les ministres de l'économie et de l'intérieur peuvent ensemble décider, tenez-vous bien, chers auditeurs, du gel total des fonds et ressources économiques de toute personne physique, morale ou entité, durée 6 mois renouvelable à l'infini, sans juge, sans procès, sans recours immédiat. Le motif, toute action ou idée qui provoque ou contribue à la discrimination, à la haine ou à la violence envers quelqu'un en raison de son origine, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, vous voyez, quand je disais qu'il y avait un lien, son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion, on a un petit peu de la loi Yadan aussi là-dedans, ou qui propagent des idées ou théories justifiant cela dès lors que cela présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Traduction, le gouvernement s'arroge le droit de ruiner financièrement quiconque tient un discours jugé haineux selon les critères du moment. Hier, c'était l'islamisme radical. Demain, ce sera peut-être un compte X trop critique sur l'immigration, sur l'idéologie LGBT, sur l'idéologie woke, sur l'antisionisme. Allez savoir. C'est la fin du débat public par l'arme administrative. L'ATA n'a plus besoin de vous condamner, il vous asphyxie. Et de quelle manière ? Il s'agit en fait ni plus ni moins de la transposition, me semble-t-il, de ce que l'Europe fait déjà et qui a frappé nos amis le colonel Gbagbo ou encore Xavier Moreau, qui aujourd'hui justement ont subi ces sanctions financières extrêmement lourdes. C'est un meurtre social, un meurtre financier. Imaginez, du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec des fonds qui sont totalement gelés, vous n'avez plus un copec, même pour vous nourrir, on vous jette à la rue, vous ne pouvez plus payer votre loyer, vous ne pouvez plus payer vos courses. Ça, c'est quelque chose que subissent aujourd'hui des gens pour ce qui l'on peut appeler des délits d'opinion. Et tenez-vous bien, eh bien, c'est moi, ça ne m'étonne pas. Je n'ai jamais pu supporter cet individu. Je lui souhaite d'ailleurs beaucoup de déconvenues dans sa campagne présidentielle. C'est Bruno Retailleau, le Vendéen, vous savez, l'ancien obligé de Philippe
de
Villiers.
L'amoureux de la liberté.
Ah, quel amoureux de la... Il galopait au Puy du Fou hein, quand il était jeune. Mmh. Hein, il est vraiment... c'est vraiment un type dont je savais qu'il fallait se défier et on en a là la preuve. Qu'il, en tout cas, il montre que patte blanche au système, parce que ça, c'est évidemment quelque chose que veut les Macron, que veut le système, c'est-à-dire une espèce de dérive totalitaire. Qu'est-ce que vous en pensez, Lara ?
Bah, je suis outrée, je pense que nous vivons peut-être nos dernières heures ou jours et semaines de liberté d'expression, encore que on est déjà assez ostracisé par ailleurs, hein, mais entendre, enfin lire ce que je lis et voir qu'il y a eu quand même 208 sénateurs qui ont voté pour cette loi abjecte, digne de l'URSS de l'époque stalinienne, bravo la France. J'ai pas de mots. Et c'est quelqu'un qui semblerait vient de notre camp, qui avait la sympathie de certains parmi nous.
C'est la fausse droite.
Mais si, il avait la sympathie de certains.
Mais oui, mais parce que c'est un ancien filloniste, il est vrai que. Il y avait, oui, en effet, bah chez oui, nous, mais... même sur Radio Gordoli, des fillonismes. Bon, ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi,
mais
ça n'a jamais été mon cas.
Cette chose abjecte comme ça, c'est-à-dire sortir complètement de l'état de droit, c'est une sortie, clairement, hein, sans que la personne ait commis un délit constaté par la justice ou tous les mécanismes, en fait. À quoi ça sert de siéger, d'inventer les lois, etc. Il vous suffit de décrire ce genre de choses et puis terminer. Vous avez la mort sociale et la mort tout court hein, d'une personne, parce que lorsque vous vous retrouvez à ne pas pouvoir vous alimenter, c'est ce qui est arrivé déjà à certains opposants. Là, c'était l'Union européenne qui avait posé cela contre le colonel Beau et Xavier Moreau. Mais là, c'est tout citoyen qui sort, en fait, qui rentre dans le radar, en quelque sorte, qui peut être ainsi sacrifié, assassiné.
Ah oui.
C'est de l'assassinat, il n'y a pas d'autre mot. Donc, ministres, quand on sait ce que sont aujourd'hui les ministres, quand on sait les parcours qu'ils ont, entre deux ministres, ils vont décider cela et puis ça va s'appliquer. Mais en quoi on est mieux qu'un régime, je sais pas, totalitaire Dites-moi pourquoi on dit encore que c'est pas une dictature ou ce n'est pas un régime autoritaire et
ah bah là on est en pleine dérive. Non mais là, indéniablement c'est une dérive. Dérive qui est de type totalitaire, en effet.
Je suis outrée, je suis scandalisée, et je trouve que là, c'est insupportable.
Donc,
c'est
en
la
tout cas,
fin de votre radio, chers auditeurs, parce qu'il ne resteront que des gens qui vont dans le sens de ce que attend le pouvoir, dans ce cas. Est-ce que c'était pour ça qu'elle était créée, cette radio ?
Non, justement, c'est une radio libre et nous serons encore à résister, mais c'est évident que là, c'est une terrible épée de Damoclès au-dessus de la tête, bien sûr. Et nous le devons donc aux sénateurs, à tous ces sénateurs qui ont bien du mal à prouver leur quelconque utilité dans un système représentatif tel que le nôtre, si ce n'est justement de pondre ce genre de proposition de loi. Donc honte à Retailleau pour l'homme qui justement ne jurait que par le fait qu'on pouvait dépasser l'état de droit. On rappelle comment il se faisait de la publicité. Ce type qui a débuté sa carrière politique en trahissant, c'est un traître comme tous ses politiciens, lui avait trahi De Villiers. Ils se sont, paraît-il, réconciliés à un moment donné. Mais enfin voilà, il a une tête d'ailleurs de traître. Très bien, alors dans le genre de dérive justement totalitaire, en tout cas autoritaire là, on va pas exagérer, là c'est du totalitarisme dont on a parlé, dérive autoritaire du pouvoir de Macron, nous avions eu donc Emmanuel Moulin à la tête de la Banque de France, donc notre Villeroy de Gallo était parti aux orphelins d'Auteuil, pour justement, il a quitté la Banque de France, hein, il l'a quitté en avance. C'est-à-dire qu'il l'a quitté alors qu'il avait encore un an à y passer, ce qui fait que normalement, celui qui aurait dû nommer le nouveau gouverneur de la Banque de France, ça ne devait pas être Macron. Donc c'est un tour de passe-passe entre Macron et Villeroy de Gallo pour permettre bien de nommer l'actuel secrétaire général de la Banque de France, secrétaire général de l'Élysée, qui arrive donc à la Banque de France, qui fut le directeur du Trésor de Nono Le Maire, du petit Nono, quand il s'est trompé de 50 milliards quand même en 2020, ou 2022, pardon,
petit
2022.
Oubli.
Voilà, sur les prévisions budgétaires, donc un nul en finances publiques, qui arrive à la tête de la Banque de France. Et bien maintenant, vous avez Marc Guillaume, le préfet d'Île-de-France, un proche à nouveau de Macron, qui est nommé vice-président, donc à la tête, hein, parce que le président, c'est le président de la République, en fait, du Conseil d'État. Premier vice-président, vice-président du Conseil d'État. Et bien c'est Marc Guillaume, la plus haute juridiction administrative. Nous avions eu déjà la Cour des comptes avec Amélie de Montchalin, qui est devenue première présidente de la Cour des comptes. Nous avons donc Moulin à la Banque de France et nous avons Marc Guillaume, un porte-coton de plus de Macron, une gonfle administrative de tous. Ce sont les mêmes, ce sont tous des énarques. Moulin, c'est même un inspecteur des finances. C'est ceux qui sont de cette génération qui ont trahi la France. Donc voilà, vous avez maintenant Marc Guillaume, Lara. Ça vous inspire quoi ? Est-ce qu'on reproche beaucoup en Russie, voilà, les nominations présidentielles ? J'ai l'impression qu'il y a plus de distance, de différence entre un Vladimir Poutine et le gouverneur de la femme qui est gouverneur de la banque centrale russe qu'il y en aura demain entre Moulin et Macron. Il est où le régime autoritaire là ?
Mais vous avez même plus de distance entre Poutine et son premier ministre, Michoustine. Vous n'avez pas du tout l'impression que c'est du copinage. C'est un travail de respect, de compétences.
Alors qu'il y a une majorité.
Alors qu'il
n'est même
pas le
cas de Macron.
Il y a une majorité en Russie
pour le pouvoir présidentiel.
C'est la République des copains. C'est la république de, je pense que de ceux qui sont fait corrompre par tout au long et qui ont avalé des couleuvres et qui sont aujourd'hui rémunérés avec des postes. Ils sont tous relativement jeunes, hein. Ça veut dire aussi qu'ils resteront très longtemps à ces postes, puisqu'il n'y a plus de carrière au-dessus, donc ils en sont à leur...
Donc, Marc Guillaume est quand même un sacré loustique, puisque, entre autres, il a été
écarté à cause de...
Congédié du poste de secrétaire général, puisque, en fait, l'individu a des comportements misogynes, remarques sexistes, blagues salaces, voilà, qui lui ont valu une mise à l'écart. Donc, alors là, on a un sacré loustique.
Ça s'appelle l'élite.
Oui.
Ça s'appelle l'élite.
c'est un jeu de chaises musicales, comme ça le directeur de cabinet de Macron est pressenti pour lui succéder à la préfecture d'Île-de-France. Il était donc le Guillaume en question était préfet de région. 6 mois après son arrivée à l'Élysée. Donc bon, voilà, le directeur de cabinet, Georges-François Leclerc, va à la préfecture. Frédéric Rose, actuel préfet des Yvelines, lui, pourrait prendre ce poste clé auprès du président de la République. Bon, voilà, c'est du copinage. Hein.
Mais à mon avis, ces gens-là, en plus, n'ont pas compris qu'en fait, Emmanuel Macron, il n'a pas arrêté sa présidence. Il n'est pas entré dans l'année de pré-élection présidentielle où il ne peut pas se présenter. Il est omniprésent.
Ah ben,
il continue, il ne laisse pas du tout la place à une campagne.
Comme le disait Pierre-Yves Rougeron, ils ont toujours pas il faut débrancher le golem.
Oui, il faut...
Alors le golem, il faut pas... le débrancher. Oui, mais... Macron...
Voilà, ils n'arrivent pas à le débrancher.
Non.
Donc voilà, et puis moi j'attire votre attention sur ses comportements lors de ce fameux sommet européen à Erevan. Mais fallait voir les bains de foule, à quel point il aime courir cheveux au vent parmi les habitants, les saluant, etc. C'est hallucinant. Donc en fait, une décomplexion complète. Il est heureux parce que là-bas, il y a les Arméniens l'accueillent en fanfare. Donc il ne s'est pas privé d'insulter la Russie depuis là-bas, donc appelant les Arméniens à se débarrasser de 5000 soldats militaires qui restent encore en force suite aux accords qu'il y a entre l'Arménie et la Russie.
On peut en dire quelques mots tout de suite, si vous voulez, d'ailleurs. Vous pouvez continuer sur l'Arménie.
Je veux bien, sur l'Arménie, ce que j'ai
l'Arménie,
à dire...
L'Arménie, on a l'impression que c'est un pays qui est en train de se perdre avec ce Premier ministre, la Pachinian.
Ah, mais c'est un pays qui reçoit les ordres directement d'Erdogan et d'Aliyev pour retirer l'emblème le mont Ararat de l'herbe, enfin comment ça s'appelle le symbole.
Je sais pas de quoi vous parlez là.
Le symbole, le mont Ararat a été retiré de tous les documents officiels.
Ah oui, vous voulez dire le blason ou
le
autre.
Le blason, oui, voilà
les symboles de la République d'Arménie.
Voilà,
c'est une république.
C'est une république.
Et la République d'Arménie. Ah oui, le mont Ararat, enfin.
Voilà.
Mais est vrai que le mont Ararat est géographiquement en Turquie. Mais bien sûr, on ne voit que lui quand on est à Erevan, son magnifique, qui est un symbole de la République d'Arménie, et donc qui a été retiré, nous dites-vous, tout ça pour faire plaisir au grand turc et à son obligé Aliyev.
Son petit frère, on dirait.
D'Azerbaïdjan.
Voilà. Les documents constitutionnels liés au génocide sont petit à petit en fait enlevés de la Constitution. Il parle de détruire, enfin d'enlever en fait le mémorial qu'il y a dans la capitale, le mémorial aux victimes du génocide,
hein.
Qui surplombe en fait la capitale sur fond justement du mont Ararat. C'est un monument qui est cher au cœur de tous les Arméniens, je pense. On parle de le démanteler. Et là, donc, il reçoit le sommet européen, il reçoit tout un tas, il y a 50 chefs d'État de différents pays qui sont déplacés, et il fait le choix de recevoir Zelensky. C'est pas un membre de l'Europe, que je sache. Zelensky a soutenu l'Azerbaïdjan dans la guerre en Haut-Karabakh. Zelensky a fourni des armes interdites par les conventions de Genève à l'Azerbaïdjan, donc les armes dont aujourd'hui les victimes sont les jeunes Arméniens. En fait, les larmes de leur mère n'ont pas encore séché, qui se permet de venir en Arménie et depuis l'Arménie menacer la Russie sur le défilé du 9 mai. C'est une aberration totale, c'est-à-dire c'est plus une question, vous savez, c'est choisir entre la mort et la perte de dignité, là c'est la mort par la perte de dignité, c'est le tout. Cet homme-là, il a tout fait aux Arméniens, et je pense que si les Arméniens ne se lèvent pas à l'extérieur comme à l'intérieur pour dire leur désaccord avec cette attitude-là, Je ne parle pas du fait qu'il doit exprimer une sympathie en particulier à Poutine, mais recevoir Zelensky après le traumatisme qu'ont vécu les Arméniens pendant cette guerre, pendant cette défaite face à l'Azerbaïdjan, tous ces réfugiés qui sont retrouvés aujourd'hui en Arménie, le recevoir en grande pompe, le serrer dans ses bras alors qu'il avait félicité l'Azerbaïdjan pour sa victoire. Mais cet homme n'a aucune dignité. Et il ne représente pas les Arméniens, en tout cas, je l'espère.
Il y a une élection législative qui approche.
Oui.
Ah on bah l'espère chassé du pouvoir.
Oh non, mais il sera
triche,
pas chassé, malheureusement.
Il achète
Nicolas,
les électeurs, c'est pas nouveau.
C'est-à-dire que les Arméniens là-bas sont transformés en veaux. Hein. Je suis désolée, ils votent, ils vont revoter pour lui. Je n'ai aucun espoir. Y a plus. Ils sont tellement, ils ont été tellement nourris au fait que, en fait, tous vos malheurs viennent du fait que vous ne pouvez pas commercer avec la Turquie, que 1000 ans d'histoire ne leur apprend rien. Et en fait, juste un populiste complètement, voilà, sans culture, sans passé, sans un type venu des fins fonds des institutions sorossiennes leur apprend que en fait leur bonheur c'est de commercer avec la Turquie. Ils vont voter pour lui.
Il risque. Écoutez, on verra. Ne soyons pas si pessimistes, ma chère Lara. Allez, on commence les auditeurs. Qu'est-ce que nous disent les auditeurs? Ils sont au rendez-vous. Bonsoir, chers Nicolas et Lara. Merci pour cette belle découverte du talent de Virginie. Voilà. Avez-vous quelques nouvelles lumières sur l'événement Paris-Mai? Je vois que nous avons là une auditrice qui écoute. Alors, le fameux 23 mai, je suppose. C'est-à-dire ce fameux livre Apocalypse, écrit avec. Qu'a écrit Régis Emmanuel Suire. Je ne l'ai pas écrit et je n'ai fait que le préfacer. Et donc, le 23 mai, est-ce qu'il y aura une bombe nucléaire sur Paris? Je ne le souhaite vivement pas, chers auditeurs. Mais en tout cas, moi, je vous le dis personnellement, pour. Donc, ça sera le week-end de Pentecôte. Fin de semaine de Pentecôte, je ne serai pas à Paris. Mieux vaut être prudent. Voilà, non, je n'ai pas de nouvelles lumières, si ce n'est que, comme je vous l'ai dit, ce qui, moi, m'est apparu le plus surprenant, c'est que c'est un samedi 23 mai, et que ce jour-là, eh bien, c'est toujours traditionnellement la finale de la Coupe de France au Stade Saint-Denis. Le président de la République y est toujours, et hop, comme par hasard, eh ben, le 23 mai, et ils l'ont reporté, ils l'ont déporté au 22 mai, la veille. La finale de la Coupe de France, comme ça Macron pourrait y être. Si le lendemain il part au Touquet, fort heureusement pour lui, eh bien, ça lui évitera peut-être le pire. Donc en tout cas, sachez-le, je pense que les Macron seront au Touquet le 23 mai. Faisons pareil, Parisiens, Parisiennes, quittons la capitale, on ne sait jamais si les prophéties de Régis Emmanuel Suire, auteur du livre Apocalypse, venaient à se réaliser. Sait-on jamais. Cher Nicolas, cher Lara, le printemps était jaune partout de colza. Tiens, vous m'avez fait la remarque dernièrement, hein, qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de colza dans les paysages. Comment se fait-il que les agriculteurs qui ont le devoir de nous nourrir aient voté comme président de la FNSEA un producteur de pétrole vert et non d'aliments? Merci bien courtoisement. Très judicieuse remarque, cher Denis. Bien d'accord.
Il y a une réaction donc concernant les saisies de comptes. Donc bonjour, dites-moi quel ordonnateur sera en charge de bloquer les comptes sans passer par la justice. Impossible à mettre en place, cordialement. Eh bien non, cher monsieur, regardons ce qui
les
est
ordonnateurs,
arrivé.
Non, mais moi les ordonnateurs, il n'y a pas de problème, je vais répondre, c'est ma spécialité, j'ai été comptable public pendant 25 ans, donc je vais vous répondre, si bien sûr, vous avez deux ordonnateurs, qui sont les ordonnateurs de la dépense et de la recette, que sont les ministres, et donc c'est conjointement le ministre des Finances et le ministre de l'Intérieur, conjointement dans leurs fonctions administratives, ce sont des ordonnateurs. Bien sûr, et en tant qu'ordonnateur, eh bien, ils seront en charge de pouvoir bloquer les comptes par le comptable public. Mais en tout cas, ce sera ordonné par les ordonnateurs qui sont des ministres. Voilà, vous avez votre réponse. On continue peut-être, quelle heure est-il? Oui, on a encore un petit moment. Je vous rappelle, à 8h30, on fera une courte incise de quelques minutes. Nous écouterons l'hommage du comte Finel au frère Thierry qui nous a quittés samedi. Il y a maintenant 10 jours, et nous sommes endeuillés sur Radio Courtoisie parce que, eh bien, il était très présent. Je l'ai eu souvent dans des émissions du Libre Journal de la Plus Grande France, de la Résistance française, du Florilège des Arts. Il était quasi permanent, il était même permanent, du Libre Journal de la France Profonde, de notre ami Thibaut de Chasset, patron d'émission, et il nous a malheureusement quitté. C'était un ami de longue date, et nous sommes actuellement à demander une cagnotte à ce que l'on nous aide, parce qu'on en a besoin pour les frais d'inhumation, d'obsèques, pardon, du frère Thierry. Voilà, donc on a atteint à peu près la moitié de la cagnotte. On vous en reparle dans quelques minutes avec l'un de ses amis à partir de 20h30, si vous le voulez bien. Alors, on a peut-être encore, donc je disais, le temps de regarder, eh bien, un ou deux éléments de la revue de presse. Sujet suivant, donc, puisque nous avons finalement traité dès à présent le sujet de l'Arménie. Ils nous refont le coup habituel, c'est de l'ingénierie sociale, ils veulent gouverner et diriger par la peur, et eh bien, nouvelle crise sanitaire en cours avec un antivirus. Vous savez, les antivirus sont des virus qui sont transmis à l'homme en général par plutôt aérosol, aérosolisation, puisque ce sont des déjections de rongeurs. Et si en effet il y a une espèce de nuage qui peut se créer, et que vous l'inhalez, vous pouvez être atteint d'une maladie, d'un virus, antivirus extrêmement grave, qui peut vous tuer, qui a tué déjà 3 personnes dans une croisière. C'est pas la croisière qui s'amuse, là, pour le dire, de façon un petit peu caustique. Et donc MV Ondus, cette croisière qui a accosté et qui, eh bien, a subi donc ces quelques morts. Tout de suite, l'OMS se met en première ligne. Hein. C'est là qu'on voit, hein, encore une fois, cette volonté transnationale d'imposer aux nations, aux États, à leur souveraineté, cet organisme qu'est l'OMS, dont on sait qu'avant d'être un organisme multilatéral, n'en déplaise à Macron ou à Bill Gates, c'est d'abord un organisme de corruption des milliardaires, des oligarques qui dirigent et qui tiennent cette organisation et qui voudraient imposer au monde les règles sanitaires. Et on sait qu'il y a des traités qui sont proches. On est heureux d'apprendre que les États-Unis, au travers Robert Kennedy Junior, ont quitté cette OMS, mais voilà, il y a, et on le voit, eh bien, le narratif est le même que celle du Covid, patient zéro, cas contact, etc. Tout ce qui fait le tout venant de ces sujets, donc tout en disant on ne craint pas,
quarantaine,
on n'a pas peur, même si la létalité, voilà. Alors il y a des phénomènes de quarantaine, on ne les laisse pas, on a des avions médicalisés qui atterrissent aux Canaries, hein, pour réparer la bulle de protection d'un patient. Donc il y a un patient qui a une bulle de protection, voilà. Le nombre de cas grimpe à 5. Alors là, voilà, on va en faire des titres d'actualité et le mettre en première ligne. Confirmation de la souche connue pour être transmissible entre humains et qui ne serait pas le scénario le plus inquiétant. Voilà, vous avez un mot à dire sur le sujet ?
Oh non, le narratif est connu, donc ce serait juste dommage de retomber dans ce piège, hein. C'est tout. Mais bon. Déjà qu'on sait que ce qui se passe avec les voies navigables actuellement, bon, bah, les vacances approchant, bon courage à Costa Croisière et autres entités pour avoir
déjà
des clients.
Le prix du fuel a beaucoup. Voilà. Et ben maintenant, vous avez l'antivirus.
Ça va mourir, tout ça.
Bon, on sent qu'il y a une ingénierie sociale mondialiste qui cherche à régner par la peur.
Non, mais tout ce qui était avant fait pour ne pas provoquer de panique, c'est-à-dire on nous cachait des informations, on faisait tout pour justement ne pas avoir de phénomène de peur de la population, mais c'est tout est inversé aujourd'hui. Chaque jour, on a un élément de peur qui nous est raconté, qui nous est expliqué. D'ailleurs, tout de suite, les médecins de plateau, les mêmes, sont déjà sur place à dire ce qu'il faut faire, comment gérer, quels sont les symptômes, etc. Donc, comme si voilà, la croisière avait déjà accosté à Marseille et que la population était déjà en contact avec les contacts, les contacts des contacts des patients zéro. Mmh. Non, mais c'est lamentable.
Ah, pendant ce temps-là, on a quand même notre foutriquet national, notre Kéké Rose, qui envoie son petit porte-avions près de qui n'aura pas les mêmes affres, espérons que ce bateau de croisière, hein, puisque le Charles de Gaulle, eh bien, est en train fièrement de franchir le canal de Suez pour se rapprocher d'Ormuz. Il manquerait plus que les Iraniens nous coulent le porte-avions. On n'en a qu'un, la Kéké Rose, hein, avec son petit... je l'imagine bien dans sa petite baignoire, le petit baigneur avec ses petits avions, ses petits bateaux à jouer avec maman qui... il dit encore 5 minutes. Non, mais c'est...
L'eau est déjà froide.
Mais l'eau est déjà... Voilà, il est avec son petit porte-avions, notre Kéké Rose. Hein, voilà. Bon,
bah non, écoutez. Mais le Kéké Rose, il va faire un plus grand défilé militaire de tous les temps.
Le 14 juillet.
Oui.
Ça va être un énorme XXL. C'est ainsi que la presse nous parle du futur 14 juillet 2026, le dernier de Macron.
Avec un terme particulier, militaire. Donc, comment c'était là?
Ah, bah non, mais alors vous avez des formules absolument inimaginables.
Militarité
Oui, oui, il y a de la. Voilà,
la militarité.
Voilà, il faut mettre en avant la militarité.
Bon courage, les auditeurs de Radio Courtoisie. C'est pas nous, hein. C'est pas de nous, hein. C'est écrit dans les journaux ainsi.
Non, mais c'est vrai. C'est ça qui est terrible.
Voilà, après la bravitude.
Vous en avez deux. Vous avez deux éléments. C'est le Figaro qui le relate sans rire, hein, sans rire. Alors après, le journaliste parle de ça et puis dit bon, en clair. Oui, alors en clair, oui. Mais avant d'être en clair, c'est encrypté. Faut croire, c'est encrypté macronien.
Codé.
Donc il faut poursuivre l'effort de militarité du défilé et mettre, tenez-vous bien, Lara, définitivement un terme à la civilianisation de la cérémonie. Chers auditeurs, donc vous avez la militarité du défilé et mettre un terme à la civilianisation de la cérémonie. En clair, plus de militaires prêts à la guerre et moins de mise en scène des missions diplomatiques ou civiles. De toute façon, on n'a plus de diplomatie, on n'a plus de
quai.
Donc le problème est vite réglé. Voilà, donc, j'avoue, mais il nous régale. On se régale avec cette revue de presse, chers auditeurs. Je vous propose... Encore un auditeur, j'ai l'observation de l'auditeur, et puis après seulement, on lancera le petit bobino. Il y a un an, Nagui manifestait pour la société Le Gaulois, arrête de commercialiser ses poulets français, vous savez, les poulets gaulois. Ouais, donc, aujourd'hui, où est-ce même Nagui pour manifester contre la chaîne de vente de poulets ukrainiens à bas prix Master Poulet? Alors ça, c'est bien
vrai. Bah, Nagui est occupé avec ses salaires, hein, ouais. Avec la commission.
Un million d'euros par-ci,
c'est en fait, il touche directement à France Télévisions, mais il y a une société aussi à lui qui produit, etc.
On est dans le conflit d'intérêts permanent.
Voilà.
Il anime des émissions qu'il vend.
Oui, exactement.
Il est payé deux public.
Fois. Deux fois. Voilà.
C'est de l'argent du contribuable.
Oui, de toute façon.
Nagui, qui est contre le poulet gaulois, mais qui n'a rien contre le poulet à l'eau de Javel de Zelensky.
Cherchez l'erreur.
Merci, chers auditeurs. Allez, envoyez vos questions, chers auditeurs, n'hésitez pas.
Et on vous retrouve tout de suite après le bobino.
Merci.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Mes chers auditeurs, vous êtes dans ce livre journal de la résistance française sur Radio Courtoisie. Je suis en compagnie de Lara Stam. Nous avons la technique, la très talentueuse Nini Vlam, Virginie. Pas de standard, mais on attend vos questions. On continue à attendre vos questions, chers auditeurs. N'hésitez pas, j'attends aussi le 4-1 de Michel Dumas, j'espère qu'il m'entend et qu'il ne nous privera pas de son fameux 4-1. Il est devenu, Michel Dumas, un collaborateur de mes libres journaux, avec Lara ou sans d'ailleurs. Et donc, on est toujours très heureux de le retrouver.
Un élément qu'on n'a pas vu sur l'Ukraine.
L'Ukraine, il y a de quoi dire, là. Allons-y. Hein.
À Lviv, ou à Lvov, défilé en grande pompe pour le, tenez-vous bien, pour le 83e anniversaire de la 14e division Waffen-SS Galicie.
Ah bah dites donc.
Unité nazie mise à l'honneur
connu pour ses massacres
de Polonais, de Juifs et de civils pendant la guerre, et célébré ouvertement dans la ville la plus européenne d'Ukraine, juste la veille du 9 mai, jour de la victoire sur le nazisme.
Voilà, donc elles vivent, c'est les Ukro-nazis.
Voilà. Mais il n'y a pas de nazisme en Ukraine, on rêve.
Complotisme.
Voilà, complotisme. Voilà. Et ils sont joyeux, hein. faut voir, des jeunes femmes, des enfants qui défilent. Voilà, 14e division Waffen-SS. Quant à moi, je vais défiler le 8 mai.
Avec, le 8 ou le 9 le 8.
Non, le 8, il y a le défilé à Paris du régiment d'immortels, organisé entre autres par l'association Stop Russophobie de Dimitri Kochko. Donc je vous donne rendez-vous à ce défilé où il y aura beaucoup de personnes qui vont commémorer leurs anciens qui sont allés combattre le nazisme. Voilà.
Alors l'armée ukrainienne reçoit aussi de l'aide humanitaire avec de la propagande sur les mariages homosexuels.
Mariez-vous,
on parlait des SS, mais on a les SA aussi. Donc voilà, donc des brochures importantes faisant la promotion de relations non traditionnelles. Ça bon. Ouais. Et appelant les militaires à se joindre au mouvement LGBT ont été découverts sur les positions de l'armée ukrainienne.
Ils peuvent colorier leur tank
les couleurs rouge. C'est mieux les couleurs LGBT, vous savez,
oui,
c'est les couleurs de l'arc-en-ciel.
Ouais. Oui, c'est bien. C'est bien visible après pour les missiles.
Oui. Ou pour les drones, oui. Oui. Littérature est imprimée en anglais et en ukrainien et est livrée par des bénévoles occidentaux avec des moyens de protection contre le VIH dans le cadre de l'aide humanitaire. J'aimerais bien qu'on y envoie les Manon Aubry, vous savez, l'autre aussi, la Tondelier.
Oh, ils iraient. Hein.
Oh, elles y vont déjà apporter ce genre de choses. Elles font de la publicité pour tout ce genre de choses-là, elles adorent. Selon un soldat de l'armée ukrainienne qui s'est rendu, le nombre de cette production de propagande sur les positions des militaires ukrainiens a considérablement augmenté récemment. Bon, ce que ça veut dire quand même, on l'a bien compris.
C'est pour remonter le moral.
C'est les réseaux Soros.
Oui.
Ils sont derrière. Hein.
Évidemment.
C'est l'Open Society, chers auditeurs. Le 9 mars, la Cour suprême ukrainienne a reconnu pour la première fois une paire homosexuelle comme une famille. Et donc les brochures ont été créées et financées avec le soutien du fonds de George Soros, ce qui indique une campagne coordonnée pour transformer les valeurs dans l'armée ukrainienne. Voilà. Et demain, eh bien, chers auditeurs, les Français seront invités aussi à mourir pour les valeurs de l'Europe, mourir pour l'Ukraine, mourir pour les valeurs LGBT telles qu'elles sont si bien, elles sont si bien diffusées au sein même de l'armée ukrainienne, quand on sait les enrégimentements forcés que subissent ces malheureux Ukrainiens. On voit un petit peu à quoi on a affaire. Alors l'Arménie, donc, ça a été traité. Le porte-avions aussi.
Oh non, mais vous n'avez pas vu les embrassades qu'il y a eu entre Macron et Pachignan au moment de se quitter.
Oui, mais j'en ai
vraiment
entendu parler.
Vraiment une lune de miel absolue. C'est à se demander comment ils arrivent à se quitter, ayant autant de sentiments l'un pour l'autre. Donc l'Arménie sera heureuse si elle est acceptée dans l'Union européenne, Pachignan. Voilà. Voilà.
Oui, et donc en tout cas, Macron ne se cache même plus de chercher à faire en sorte que de chasser ce qu'il reste de résidus russes en Arménie.
Ah oui,
on rappelle que l'Arménie est une ancienne république soviétique.
Non, mais c'est toujours. Enfin, Nicolas, je vous rappelle que je disais que Macron est en avant-garde de toutes ces choses, c'est-à-dire oser dire ce qu'il a dit sur justement ces militaires basés en Arménie depuis la chute de l'URSS, depuis le démantèlement, là où l'Arménie avait besoin en fait justement des forces pour contenir ses frontières, pour là les cibler de cette sorte. Mais c'est inouï. Pourquoi il n'a pas parlé des 3000 Américains basés à l'ambassade américaine à Erevan? Un tout petit pays qui a la plus grosse ambassade au monde. Ça, il n'a pas pointé. Hein. Mais c'est comparable. Pourquoi les Américains s'intéressent autant à l'Arménie? Pourquoi un tel contingent d'ambassade pour l'ambassade américaine? Ce sont tous des chercheurs sur sur comment géologue ou je sais pas chercheur en histoire. Qui sont ces gens-là? Et puis encore une fois, cette provocation, elle vient toujours de Macron. C'est lui le premier qui a parlé de fournir les armes, enfin les blindés, etc. Voilà.
Bien. Ben écoutez, on arrive à peu près à l'heure.
Mais le nucléaire, vous ne parlez pas du nucléaire
On va en parler de tout ça, on a le temps.
D'accord.
Moi, ce que j'avais, c'était envie de parler un petit peu rapidement du frère Thierry, puisque nous allons avoir le comte Finel, qui est un ami du frère Thierry, dans un instant. Je rappelle cette aide aux frais d'obsèques de frère Thierry et offrande d'un trentain pour le repos de son âme. Donc c'est la cagnotte des proches. Et voilà, et la cagnotte des proches, eh bien, merci Virginie qui me fait signe que le comte Finel est parmi nous. Donc je rappelle juste avant de lui laisser la parole, eh bien, c'est la cagnotte des proches. Voilà, chers auditeurs, ce sera sur l'affiche de cette émission, comme ce fut sur l'affiche de l'émission du Florilège des Arts, aide aux frais d'obsèques de frère Thierry et offrande d'un trentain pour le repos de son âme. Nous en sommes, je peux même vous dire exactement, à 40% de l'objectif. Nous avons donc une collecte qui doit être une collecte de 4 600 euros et nous avons déjà collecté 1 850 euros avec 33 participations. Merci à ceux qui ont participé, merci à ceux qui vont encore participer pour que nous puissions atteindre cet objectif. On en reparlera certainement prochainement dans une émission de Thibaut de Chassé d'un libre journal de la France profonde. Mais je voulais évidemment en reparler et je vais pouvoir, pendant quelques minutes, nous allons pouvoir recevoir le comte Finel qui était un ami proche du frère Thierry. Bonjour, est-ce que vous m'entendez, comte Finel ?
Oui, bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Oui, je vous entends très bien. Bonsoir.
Alors, je voulais, nous écoutons peut-être parce que je sais que vous étiez très proche du frère Thierry.
Oui.
Et ce fut quelque chose un choc pour vous. Et j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu aussi du frère Thierry. Quelques anecdotes peut-être pour nous le rappeler.
Eh bien, le frère Thierry, on se connaissait depuis plus de 20 ans. C'était un personnage énigmatique et en même temps quelqu'un de formidable. D'abord, c'était une personne qui avait une grosse instruction et une culture immense, qui aimait le français, le latin, le grec. Grâce à lui, je me suis remis au latin puisqu'il venait toutes les semaines chez moi pour me donner mon cours de latin, et puis pour parler, parce que nous parlions beaucoup de littérature, de foi, de religion. Voilà. C'était devenu normal. Voilà, toutes les semaines, il venait à très bonne heure, à 9h du matin, 8h30 parfois, à 9h du matin. Et voilà, c'était devenu une tradition de faire ce cours de latin autour d'un café, de plusieurs cafés même, parce que nous parlions beaucoup, nous avions soif. Voilà, et c'était des moments très, très, très agréables. Et le frère Thierry, sous son air bougon, en fin de compte, était quelqu'un de tendre.
Oui.
Tout le monde disait, oui, il est dur, il est extrémiste, il est ceci, il est cela. Non, il avait ses idées, mais comme nous avons tous nos idées, alors peut-être ne les donnait-il pas d'une manière policée, on va dire, d'une manière dont les diplomates se servent. Mais en fin de compte, c'était quelqu'un au grand cœur. Et moi, je n'oublie pas surtout que c'est à lui que je dois d'avoir écrit mon premier livre, hein, Les Bâtards Royaux, Mes Ancêtres, Une Autre Dynastie. Il m'a fait rencontrer et connaître Thibaut de Chassé, qui a eu la gentillesse d'éditer ce livre. Voilà, et tout ça, on le doit au frère Thierry, parce que j'avais cette idée-là depuis longtemps, mais je n'avais pas l'opportunité, et je ne la cherchais pas non plus de mon côté, pour faire éditer ce livre, et c'est grâce à lui si je l'ai fait. Voilà. Et il me tabustait tout le temps pour que j'en écrive d'autres, et d'ailleurs j'en ai un qui est à la moitié de son parcours sur l'opérette, puisque c'est mon métier.
Oui.
Et on peut être prince et avoir un métier. De toute façon, maintenant, les princes n'ont plus d'argent. Donc, de toute façon, il faut travailler. Donc, voilà, c'est un métier que j'aime, que j'adore. Et donc, il me poussait à écrire un livre sur l'opérette, comme j'ai pu en faire des conférences quand il était au Parloir chrétien.
Oui.
Voilà, donc son décès, c'est vraiment un coup de poignard, parce que c'est vrai qu'il n'allait pas très bien. Hein. Il avait de gros soucis quant à savoir où il allait pouvoir atterrir pour être logé et quitter cette tente au milieu du bois de Vincennes. Et puis, c'est vrai qu'il m'a envoyé un texto, je le garde précieusement,
oui.
Le vendredi, où il me met « Je vais partir, priez pour moi ». Et je lui ai répondu, je lui ai dit « Je vais vous appeler
».
Et puis malheureusement, on a appris le décès le lendemain, puisque je crois être la première personne à avoir été avertie de son décès, puisque dans le téléphone, j'étais évidemment en première ligne, vu qu'il m'avait envoyé ce texto la veille.
Il était parti se reposer dans un monastère, je crois.
Oui, c'est ça, il était dans un monastère où il était parti se reposer, m'avait dit 4 jours, et en fin de compte, eh ben, voilà. Mais écoutez,
il avait eu la préscience de sa disparition.
Voilà, il a eu la préscience, il est mort, non pas perdu sous une tente dans un bois, dans une forêt. Il est mort malgré tout avec un entourage, parce que les prêtres, les moines, je ne sais pas exactement ce qu'ils sont dans ce monastère, ont pu quand même le peut-être le réconforter malgré tout, même s'il se sentait partir, parce que je pense qu'il n'avait plus la force de lutter. Hein. Je pense quand la vie devient trop dure, c'est très difficile de lutter. Et mais bon, il n'est pas mort au fond d'un bois tout seul. Voilà, bon, c'est une piètre consolation, mais malgré tout, c'est quand même mieux que de mourir comme un pauvre air comme ça, dehors et seul. Voilà. Bon, ça a été un coup de poignard, parce que vraiment, je ne m'attendais pas à ce décès aussi vite, même s'il me l'avait écrit. Mais entre ce qu'on écrit et ce qui se passe exactement, parfois, ce n'est pas pareil. Mais là, oui, il avait eu la pression, oui, tout à fait.
Oui.
Tout à fait. Mais peut-être se sentait-il appelé, hein, c'est possible. Hein.
C'est certain.
Moi, je crois à ça. Je crois à ça. Et je pense que le Très-Haut l'a appelé et que... Je pense qu'il s'est senti au moment où il pouvait passer le pas.
Oui.
Moi, je crois très fort à ça. Très fort à ça.
Oui. Est-ce que vous voulez terminer, Grande Finelle, peut-être sur une anecdote de frère Thierry qui nous l'immortalise?
Alors, une anecdote... j'essaie de trouver une anecdote avec le sourire.
Oui.
Ça ne me vient pas, parce que c'était un personnage, en fin de compte, c'était fort drôle. Hein, il était fort drôle.
Bon, alors,
parce que
oui.
son côté bougon, gueulard, on va dire, etc. Mais c'était en fin de compte une façade. C'était une façade. Non, moi, je me souviens surtout de ces moments, je veux dire, de ces moments de latin, de cours de latin. Et d'ailleurs, je ne vais pas arrêter, je vais continuer à potasser les fiches qu'il m'avait faites, parce que j'avais fait des progrès en latin, et ça, c'est grâce à lui. Et puis donc, sur une note de gaieté, parfois il s'emballait sur telle ou telle personne. Alors bon, je le recadrais gentiment, mais parfois, bon, j'haussais le ton, il se taisait, il rebuvait un café, et c'était reparti.
Bien.
Parce que quand il avait une idée dans la tête, il ne l'avait pas ailleurs, vraiment.
C'est sûr, voilà, c'est le moins qu'on puisse dire,
voilà,
tout à
bon,
fait.
Il va nous manquer dans le paysage de ce pays en perdition, dans le paysage de cette religion en perdition, de l'histoire en perdition. Voilà, c'était, il présentait un rempart quand même à tout ça. Et il va nous manquer, il nous manque déjà.
Tout à fait. Très bien, donc je rappelle pour les auditeurs qui voudraient participer aux frais d'obsèques de frère Thierry et l'offrande d'un trentain pour le repos de son âme, eh bien, il faut aller sur la cagnotte des proches. C'est important, des proches.
Il faut que je le fasse, je ne l'ai pas fait. Je veux dire pourquoi, parce que moi et la technique, ça fait deux. Donc j'attends que quelqu'un vienne me le faire. Voilà. Mais donc je n'ai pas encore participé, mais je vais le faire.
Voilà, on a atteint 40%, je vous disais, de l'objectif.
C'est ça, oui,
1850 euros ont déjà été collectés sur les 4633 participations.
Il faut qu'on arrive à faire monter cette cagnotte.
Chers amis, à la suite du rappel à Dieu de frère Thierry, cette cagnotte est mise en place. Vos dons serviront à payer les frais d'obsèques, à lui offrir une belle messe de funérailles ainsi qu'un trentain pour le repos de son âme. Merci beaucoup. Compte Finel, et passez une bonne soirée, et merci pour ce témoignage pour le frère Thierry.
Et à très vite.
À très vite.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Lara, vous vouliez ajouter peut-être quelque chose sur le frère Thierry?
Oui, une anecdote un peu peut-être drôle, parce qu'il venait à la maison, rappelez-vous, pour adoucir un petit peu son quotidien, pour bien manger.
L'époque où nous étions en région parisienne.
Exactement.
C'est vrai que depuis deux ans, j'ai l'impression qu'il était...
Il avait un peu sombré, pourtant
je lui avais dit de venir, mais bon...
Bon, en tout cas, je me rappelle, un jour, il a voulu m'aider à la maison et il s'est proposé donc, de faire quelque chose. Je lui ai dit, écoutez, autant arroser le jardin. Donc, je lui passe le tuyau qui était un tuyau qui s'élargissait, qui était élastique, donc devenait plus long avec l'eau dedans. Et puis, donc, il arrose. Puis, tout à coup, je commence à voir de l'eau dans la cuisine, en fait. Il avait tiré trop sur le tuyau et le tuyau s'était rompu. Donc, je lui dis, frère Thierry, on arrête. Et puis, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il rentre dans la cuisine. Il dit, mais c'est pas grave. Et là, je lui dis, mais si, c'est grave. Faut arrêter l'arrosage.
Non, il était capable d'arroser tout en fumant sa cigarette et puis avec la tête ailleurs. Donc,
Il avait tiré, ça avait accroché un morceau de métal et donc le tuyau s'était rompu. Et il dit, mais c'est pas grave, bon, tout va bien, qu'est-ce qu'il y a? Toute la cuisine était inondée, mais c'était pas grave.
Ouais.
Voilà, c'était un homme qui était serviable quand il voulait remercier sans les mots, mais vraiment se rendre disponible pour faire quelque chose. Donc c'était émouvant et touchant.
Une personnalité à part, frère Thierry, tout à fait. Voilà, donc n'hésitez pas pour... ça sera sur l'affiche aussi de cette émission, la cagnotte des proches pour l'inhumation, offrir une belle messe au frère Thierry. Voilà. Allez, il nous reste quelques...
Toujours aucune réaction pour le chat.
Non.
Je suis très étonnée.
Non, on n'a pas de réaction pour le chat.
Chers auditeurs.
Rappelez-nous le chat, Lara.
Voilà. Gaspard, un jeune chat noir et blanc, castré, pucé, qui attend une famille aimante, qui aime les humains, très sociable, très câlin. Voilà. Qui attend une famille d'adoption.
C'est ça. Cette auditrice, bonjour. Mais quel défilé ! La bombinette sera passée, le locataire de l'Élysée ne fait traque des ruines. Bonne soirée. C'est le 14 juillet. Il va passer de l'eau sous les ponts de Paris, comme il est d'usage de dire avant ce 14 juillet. Je ne vous le fais pas dire, chère madame. Voilà. Allez, on continue. Il nous reste un peu de temps, un gros quart d'heure de revue de presse. On va se faire encore un peu plaisir. N'hésitons pas avec cette revue de presse de Radio Courtoisie. Allez, on continue avec justement le nucléaire et Israël. Tiens, ça c'est intéressant, c'est un peu de poil à gratter pour nos auditeurs. Au Congrès américain, les démocrates demandent la fin du silence de la Maison-Blanche sur le nucléaire israélien. Ah bah oui, cet État à part, avec son armée la plus morale du monde, ce pays qui se croit tout permis, en plus détient l'arme nucléaire, sans le reconnaître. Il semblerait que ce soit à l'origine dans un accord entre Nixon Et le Premier ministre israélien de l'époque, dont je vais vous retrouver le nom tout de suite, qu'il a été convenu, pour éviter justement les polémiques dans cette région du monde, de parler du nucléaire secret de l'État hébreu. Je vais vous dire ça dans un instant. Donc l'État hébreu n'a jamais reconnu détenir la bombe nucléaire. Le pays n'a donc pas de doctrine d'emploi officielle et ne fait partie d'aucun traité de non-prolifération. Bah, pourquoi se gêner ? On est l'État d'Israël, évidemment. On se prétend et on se croit à part. Pourtant, c'est un secret de polichinelle que l'Israël dispose d'ogives atomiques.
Et l'absence de doctrine, rappelons-le, c'est-à-dire le mode d'emploi, la façon dont les autres pays peuvent traiter avec Israël est face à une inconnue. C'est important, la doctrine, c'est-à-dire c'est les fameuses lignes rouges, des choses à pas faire, etc., parce que derrière, il y a ce danger. Non, il n'y a pas de doctrine. Donc, vous ne pouvez pas savoir pourquoi, tout à coup, ça peut être utilisé ou ne pas être utilisé. Enfin, c'est malheureux, mais ça fait partie des éléments qui régissent le droit international et qui permettent aux pays d'interagir. Là, il y a un trou noir. Voilà.
Alors l'accord tacite, il date de 69 entre Richard Nixon et Golda Meir, voilà, qui était le Premier ministre à l'époque. Alors ce que disent les congressmen américains, démocrates, le Congrès a la responsabilité constitutionnelle d'être pleinement informé de l'équilibre nucléaire au Moyen-Orient, du risque d'escalade par toute partie à ce conflit, ainsi que des plans et des mesures d'urgence mis en place par l'administration pour faire face à de tels scénarios. Et oui, nous ne pouvons pas élaborer de politique de non-prolifération cohérente au Moyen-Orient tout en maintenant une politique de silence officielle concernant les capacités nucléaires d'une partie centrale du conflit en cours. Donc ce que ça montre surtout, c'est que l'image dans l'opinion publique et chez les politiques américains d'Israël a beaucoup et est en train de fortement changer. Et qu'il ne bénéficie plus justement de ces avantages qu'il pouvait avoir par rapport à une autre nation. Et qu'aujourd'hui, eh bien, ils sont nombreux aux États-Unis aussi à ne plus faire de concessions à Israël. 60% des Américains ont aujourd'hui une opinion défavorable d'Israël. Et le pourcentage grimpe à 80% chez les démocrates. Ils étaient seulement 53% en 2022, avant le début de la guerre de Gaza. C'est dire combien Israël n'a plus aujourd'hui la cote. 40 sénateurs qui ont donc voté contre la livraison d'armement américain à l'État hébreu. Entre autres, par rapport à cette situation, par rapport au nucléaire. Donc, je voulais en dire quelques mots, en effet. On continue, si vous voulez, cette revue de presse avec peut-être la situation au Proche-Orient, Lara.
Eh oui, c'est très, très, très intéressant. Écoutez, je suis en train de sélectionner des photos du chat. La situation au Moyen-Orient, il y a une information qui est passée et qui est passée assez d'une façon, je sais pas, qui n'a pas choqué grand monde. Cette religieuse agressée.
Ah, mais ça, on va en parler. Alors attendez, avant d'en parler, parce que ça, je veux absolument en parler, je voulais d'abord que l'on se mette, si vous voulez bien, par rapport à la guerre, dans la tête d'un fou, parce que pour moi, on se met dans la tête d'un fou, et c'est dans la tête de Trump, c'est-à-dire pas Trump qui dit « pas d'accord, les bombes repartent plus fort que jamais ». Donc après avoir vanté
le blocus assure une voie navigable ouverte.
Après avoir vanté les progrès majeurs vers un accord complet sur les détroits, Trump vient de durcir à nouveau brutalement le ton. Si le Téhéran refuse les termes américains, c'est-à-dire levée progressive du blocus naval, allègement des sanctions et gel de l'enrichissement d'uranium pour 12 à 15 ans, eh bien les bombardements recommencent, et cette fois à un niveau et à une intensité bien supérieure à ce qui a été fait auparavant. Alors, il ne cesse de souffler le chaud et le froid. On avait, et je pense que c'est peut-être, je me demande si l'Empire américain ne vit pas un petit peu ce qu'avait pu subir l'Empire soviétique à une certaine époque. c'est-à-dire avec, après Brejnev, Andropov et Tchernienko, qui étaient l'un malade, l'autre sénile. Est-ce que l'Empire américain ne vit pas un peu la même chose avec Joe Biden et Donald Trump? Alors, sachant que Joe Biden était un sénile silencieux, il était obligé de répéter sur le prompteur à la ligne, c'était pitoyable, mais on a avec Trump une espèce de sénile mais excité. Mais moi, je ne comprends que par le biais de la sénilité, les rodomontades perpétuelles, complètement ridicules, où vraiment il dit tout et son contraire en permanence, où il tient des propos parfois complètement décousus. Il faut bien quand même s'en rendre compte. Et donc, eh bien, c'est cet homme qui aujourd'hui dirige cet empire américain, un empire dont on sent qu'il est en grande perte de vitesse.
Non, ça rappelle beaucoup cette situation dans laquelle était plongée l'URSS avant l'arrivée de Gorbatchev. Gorbatchev a été choisi surtout pour sa jeunesse, hein, parce que quand même, consécutivement...
Oui, après, deux vieillards.
Deux vieillards qui n'ont pas tenu longtemps.
Un petit peu ce que l'on a avec Biden et Trump.
Et en fait, ce qui se passe, la différence, c'est que cet homme-là a accès aux moyens de communication. Donc, son réseau social étant à lui, donc il peut taper n'importe quel message à n'importe quel moment. Je ne pense pas que quelqu'un peut lui retirer les moyens de communiquer, même s'il y a des moments de silence, hein, des moments d'accalmie. Tout à coup, il ne dit plus rien. Ou alors, il envoie 12 messages contradictoires. C'est-à-dire, on se couche avec un cessez-le-feu, avec... le fait que la phase offensive est terminée, on se lève avec bombardement plus intense. On se couche avec une civilisation qui va être détruite dans la nuit, on se réveille avec un cessez-le-feu qui met fin à la guerre. Enfin, on est sans arrêt dans une espèce de jeu de quilles. C'est insupportable, mais effectivement, à mon avis, ça traduit quand même qu'un problème... psychologique. D'ailleurs, il n'a pas la même tête, il n'a pas la même gestuelle qu'avant. On a face à nous, on dirait, un homme presque complètement désorienté. Si vous regardez la façon dont il gère sa gestuelle et tout, c'est assez étrange.
Moi, j'appelle ça vraiment dans la tête d'un fou. Il nous fait participer à sa folie.
Ah, mais pleinement. Mais en plus, il nous amène à la commenter. Commenter la folie, mais comment vous voulez commenter la folie? Regardez les grands plateaux de BFM, etc., où ils viennent, en fait, ils prennent des notes, à mon avis, dans le taxi, c'est au dernier moment qu'ils prennent la dernière information pour réagir. Moi, j'adore quand vous voyez BFM interroger un ancien espion KGB qui serait plus renseigné que d'autres sur ce qui se passe en réalité. Mais c'est voilà, on est dans le théâtre d'absurde.
Alors, vous allez être contente, Lara, puisque vous avez eh bien, une dame, justement, une auditrice. Oui. Merci pour votre émission. Je voudrais savoir, s'il vous plaît, quel est l'âge du chaton et où il est né. Est-il affectueux et aussi si on peut en avoir une photo. Merci en tout cas pour votre émission. Contente d'entendre Lara. Merci et bonne continuation. Bah, écoutez, il y a de l'espoir.
Oui, il y a de l'espoir. Voilà. Je vais écrire tout de suite après l'émission à la personne. Et oui, il est très affectueux.
Sur l'Arménie, bonjour, le président arménien salit les Américains, mais croyez-vous que ces derniers enverront leur GI si l'Arménie est en difficulté? Bonne question.
Ouais. Bah non, déjà, Trump, tout ce qu'il veut, c'est le couloir reliant la Turquie à l'Azerbaïdjan, un couloir qu'il appellerait, du nom de Trump. Donc c'est bien, et comme ça l'Arménie sera définitivement coupée de l'Iran, et l'action des 3000 fonctionnaires de l'ambassade serait ainsi parachevée par un succès.
Eh bien, nous avons, avant de terminer cette revue de presse... Voilà, nous avons le 4-1 de Michel Dumas.
On en a les deux peut-être, non?
Un grand merci à Michel pour... ce 4-1 et de belles photos aussi. Alors,
mais
attendez,
on
n'a
toujours
découvre.
Pas parlé des chrétiens.
On y arrive juste après, promis. On termine avec Michel Dumas, les auditeurs, et on finit avec cela. Oui, il reste 7 minutes exactement. Merci Lara. À notre président qui connut la bohème, je dédie ce 4-1 en guise de poème. Ô pubère éternel qui mature poème, ton génie fait de France universelle Noème. Et oui, parce qu'il a,
oui,
chanté,
il a chanté
la bohème.
La bohème, oui, oui. Ah oui, il a chanté la bohème, c'était catastrophique, mais enfin, il nous aura fait honte jusqu'au bout. C'est comme ça.
Alors on a, voilà, il nous explique, il m'explique, en effet, Michel Dumas, il est tout excusé. Il disait, j'étais au baptême d'un arrière-petit-neveu dans le Val d'Oise samedi. Ah. Prions pour le... C'est pour ce qui explique pourquoi il n'est pas intervenu, en effet, samedi dernier, dans le livre journal de Géopolitique Profonde. Prions pour le repos de l'âme de frère Thierry, que j'ai pu côtoyer au Parloir ou à Saint-Eugène, entre autres. Je renonce in extremis à ma séance de piscine, prévue ce soir. Ah. Merci, Michel, d'avoir sacrifié piscine, j'avais piscine ce soir, ouais. Pour notre émission de Radio Courtoisie, le journal de la Résistance française. Et on va terminer avec le dernier thème que je voulais aborder, les problèmes de christianophobie de la capitale des Gaules jusqu'à Israël. Et si on commençait donc par Israël, nous évitons de porter la croix à Jérusalem, les agressions contre les chrétiens se multiplie. Une semaine après l'attaque contre une religieuse française sur le Mont Sion, Israël minimise l'ampleur du phénomène pour rassurer entre autres les évangéliques américains sans convaincre les communautés chrétiennes. Et oui, on évite la zone juive de Jérusalem pour éviter justement de prendre des coups. On a Itamar Ben-Gvir qui est le créateur du parti Force Juive, qui est un parti que certains patriotes pensent pouvoir mettre en avant parmi notre famille politique, qui sont peut-être des soutiens financiers, j'en sais rien, mais qui sont pourtant une organisation particulièrement détestable. Ben-Gvir, c'est un extrémiste, et il est profondément anti-chrétien. D'ailleurs, et donc vous avez, et Ben-Gvir eh bien, fait partie de ces gens qui justifient le fait qu'on peut cracher sur des chrétiens, on peut cracher aux abords des églises aussi, ça fait partie
de la tradition.
Voilà, c'est une tradition juive, donc voilà, on évite, en tout cas nous évitons de porter la croix dans la vieille ville, et autant que possible nous évitons le quartier juif pour nous rendre au Saint-Sépulcre. Déplore le père Agnan, voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a ce problème. Moi, de toute façon, j'ai toujours fait partie de ceux qui ont considéré que Jérusalem ne devait pas appartenir à un État, pas plus Israël qu'un autre, et que ce devait être un mandat international, cette ville qui, justement, est la ville sacrée de toutes les grandes religions et qui ne devrait pas bien connaître, finalement, une administration israélienne. J'en suis convaincu, c'est pour ça que j'ai toujours été très hostile à aussi lorsque Trump, lors de son premier mandat, a déplacé de Tel Aviv à Jérusalem l'ambassade des États-Unis en Israël. Donc voilà, Itamar Ben-Gvir qui, on rappelle par exemple les agressions en 2015 sur le prieuré de Tabga, sur le lac de Tibériade, qui avait été attaqué justement cette communauté par des extrémistes juifs. Se souvient par exemple le père Nicodémus, nous avions porté plainte et les assaillants avaient été défendus par un avocat du nom d'Itamar Ben-Gvir, qui deviendrait le dirigeant du parti d'extrême droite Force Juive et ministre. Vous n'imaginez pas le degré de violence et de haine envers les chrétiens qu'il a pu proférer pendant l'audience. Aujourd'hui, cet homme condamné à de multiples reprises pour incitation à la haine est le ministre de la Sécurité nationale, le chef de la police censé nous protéger. Donc c'est pour une certaine droite attardée, je fais ce petit signal que ceux qui, semble-t-il, vous soutiennent et ont même été jusqu'à porter des accusations sur certaines tonalités politiques de TVL, de GPTV, de Radio Courtoisie, eh bien, c'est le représentant d'Itamar Ben-Gvir en France, parti des forces juives, voilà, avec un degré de violence et de haine envers les chrétiens. Voilà. Et après, nos patriotards parlent de judéo-christianisme. Ça me fait beaucoup rire. Franchement, je pense qu'ils devraient revoir leur position. Mais peut-être y a-t-il quelques raisons financières à ces positions, à les savoir. Hein. Je ne me ferai pas aussi désobligeant qu'ils peuvent l'être eux-mêmes vis-à-vis de nous.
Voilà. Mais rappelez-vous aussi l'histoire de la statue de Jésus, un soldat israélien, c'était au Liban, hein, qu'il cherchait à décapiter. Oui. La petite histoire qui est passée en fait totalement inaperçue, c'est pas seulement le soldat qui a cherché à décapiter la Vierge qui a été pénalisé, mais c'est celui qui l'a filmé et diffusé qui a été pénalisé, parce que le tort était sur lui, en fait. Donc, voilà. Si après ça, vous continuez à croire que c'est anodin, que c'est accessoire, bah écoutez, bon courage à vous. Hein. Enfin, vous savez, c'est, en russe, on dit, celui qui se noie est le premier concerné par sa noyade. Donc, voilà.
Bon, il n'y a pas qu'en Israël hein, que ça se passe comme ça, la christianophobie. Une statue de la Vierge décapitée à coups de masse près de Lyon.
Oui, bah écoutez, continuez ainsi. Donc.
Voilà. Bien, bah écoutez, j'ai l'impression qu'il ne reste plus qu'une petite minute. Est-ce que, éventuellement, un dernier courriel d'auditeur. L'Iran utiliserait-il une arme nucléaire contre Israël alors que cela tuerait autant de musulmans que d'israéliens et que les récents conflits ont montré que les missiles à charge conventionnelle sont largement suffisants pour ne pas donner une justification à une frappe nucléaire de représailles? Mais par contre, une arme nucléaire iranienne dissuaderait toute attaque nucléaire. On peut donc croire que le nucléaire est un moyen de stabilisation d'une région quand il est disponible des deux côtés, mais la situation actuelle est une incitation à la guerre pour Israël. Bah, je rappellerai la Corée du Nord, cher auditeur, vous avez parfaitement raison. Je vous donne entièrement raison. Eh bien, écoutez, on va se dire au revoir, Lara. On a été content de vous avoir pendant une heure et demie.
Moi aussi, j'étais contente de revenir sur cette antenne.
Eh bien, je pense que Virginie l'était aussi.
Elle a été félicitée plusieurs fois par les auditeurs.
Voilà, tout à fait. Des bravos. Oui, tiens, d'ailleurs, Michel Dumas aussi félicite Nini Vlam. Eh bien, ma chère Nini, ma chère Virginie, cette émission s'achève. Je vous remercie encore une fois d'avoir assuré la réalisation de cette émission. Lara, merci à vous. Merci, chers auditeurs. Passez une excellente soirée sur Radio Courtoisie. Et je vous dis, eh bien, pour ma part, à samedi matin, 9h, pour le Libre Journal de Géopolitique Profonde. Merci.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Résistance française dirigé par Nicolas Stocker et assisté de Lara Stam. Diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 6 mai 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.